Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Il y a une pédagogie dans les deux dimanches qui suivent la Pentecôte. Le calendrier de l'Église nous invite, après avoir invoqué la descente du feu du Saint-Esprit sur le cosmos et sur chacun de nous en particulier, nous invite à entrer dans deux des plus grands mystères de la vie chrétienne. Dimanche dernier, la Divine Trinité. Ce dimanche, l'Eucharistie. Entrer dans le mystère, et vous savez que le mystère n'est pas quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est plutôt une réalité qu'on n'a jamais fini de découvrir. Il y a lieu donc de vivre, d'entrer dedans, et éventuellement, si cela nous est donné, de connaître plutôt que de comprendre. J'ai remarqué tout à l'heure que Saint Maxime le Confesseur porte un pilaster dans lequel il est marqué « Dieu, nul ne l'enferme et nul ne le capte ». Et Saint Paul dit « Je ne cherche pas tant à saisir qu'à être saisi ». C'est cela le connaître auquel nous faisons allusion. Il s'agit de naître avec, mourir à l'homme ancien et naître à cette nouvelle réalité structurante qu'est la Divine Trinité et qu'est la réalité, qui est la réalité aussi de ce que nous célébrons aujourd'hui, l'Eucharistie. L'Eucharistie, est-ce un moment, le dimanche matin, où l'on va à la messe et on va communier? Évidemment non, laissons ça à ceux qui ont fait de la religion et qui vivent toute la semaine en dehors de la réalité du mystère vivifiant et puis qui font une obligation dominicale. Et considérons au contraire que l'Eucharistie est le moment fort et la concrétisation d'un état de vie, d'un état d'esprit dans lequel nous sommes invités à vivre tout au cours de la semaine, tout au cours de notre vie. Et qu'est-ce l'Eucharistie si ce n'est cette réactivation, cette réitération mystérieuse au cours de la Divine Liturgie de l'offrande du Christ, de lui-même et du cosmos, et puis cette gratitude à laquelle nous sommes invités. Gratitude, rendre grâce, ce sont des grands mots, et parfois il est bon de faire descendre les mots sur terre. Au fond, Eucharistie, ça vient du grec, et pour ceux qui ont été en voyage en Grèce et qui ont commandé un petit café sur une terrasse, lorsque le garçon vous apporte le café, vous dites « Eucharisto ». Ça veut dire tout simplement « merci ». Donc il s'agit d'entrer effectivement dans le mystère de la gratitude, de savoir dire merci comme art de vivre pendant toute la semaine. Et alors nous vivrons le sacrement de l'Eucharistie comme la concrétisation de cet art de vivre ritualisé dans le cœur de la liturgie et communautaire bien sûr, puisque c'est en Église que nous la célébrons. Alors ce dimanche, oui, nous prenons conscience de l'immensité de ce vécu-là. Et la péricope de l'Évangile que nous avons entendue est pleine d'enseignements. Vous avez entendu que le maître du repas invite ses invités. Il faut savoir que dans les temps anciens, il n'y avait pas de poste, et donc on avertissait longtemps à l'avance les gens en leur disant « il y aura une fête dont on n'a pas la date ». Et lorsque la fête est prête, le maître du repas envoie ses messagers pour dire « Savez-vous, cette fête qui avait été prévue, eh bien c'est maintenant, c'est aujourd'hui ou c'est demain. » Et voilà donc que les messagers viennent dire « Tout est prêt, venez au repas » et les uns et les autres trouvent toutes sortes de prétextes pour ne pas venir. Pour l'exprimer en termes contemporains, on pourrait dire que l'un invoque le fait qu'il a un acte notarié à passer, que, excusez-moi, je ne suis pas libre. L'autre s'excuse parce qu'il vient d'acheter une nouvelle Mercedes et il voudrait bien l'essayer. Et puis le troisième, il ne s'excuse même pas. Il dit, je viens de me marier. Et il y a dans cet alibi une intuition intéressante. Il se dit, la vie de couple, le mariage, a quelque chose à voir avec ce qui se célèbre dans ce repas-là, le banquet eucharistique. Nous en connaissons la signification, c'est-à-dire l'amour trinitaire. Mais il inverse les choses. Le couple n'est pas l'icône, n'est pas le modèle de la vie trinitaire, c'est la vie trinitaire qui est le modèle, qui est l'icône, qui est le modèle à vivre. Un couple par soi-même, sans le grand troisième, fonce dans le mur. Il n'y a pas de possibilité de vivre le couple en duel, en duo, limité à deux personnes. Toujours est-il que ces trois excuses, ces trois alibis qui ont été invoqués, irritent à juste titre le maître du repas. Et que fait-il? Il renvoie ses messagers chercher les pauvres, les infirmes, les aveugles, les boiteux, les alaouim, les pauvres d'Israël, ceux qui sont le plus proche du cœur de Dieu, parce qu'ils n'ont pas d'autre confiance que celle de s'en remettre à Dieu. Ils n'ont pas les alibis et les fausses sécurités que nous connaissons bien chacun de nous. Ils sont tout entier prêt à recevoir la sécurité et l'amour de Dieu. Et ils sont donc invités à la place des bien-pensants qui, normalement, auraient dû être les premiers invités, mais qui, comme nous l'avons entendu, avaient d'autres préoccupations. Et puis, les messagers annoncent que la table n'est toujours pas pleine et qu'il y a encore, de la place. Alors, le maître envoie dans les campagnes, en dehors de la ville, et selon une traduction, au-delà des clôtures. Et nous sommes là devant cet extraordinaire appel du Christ qui revient constamment dans l'Évangile d'ouvrir jusqu'à l'universalité, car c'est cela la dimension de son amour. Quelle image de l'Église recevons-nous dans cet Évangile? Nous avons, chers Père évêque et chers amis, dans le manifeste de l'Église orthodoxe des Gaules, marqué en conclusion de notre texte, que nous pensons que le rêve de Dieu pour l'Église et ce à quoi nous souhaitons contribuer, c'est une Église mystique, pauvre et œcuménique. Eh bien, nous le voyons bien que la compréhension du banquet eucharistique, la compréhension du mystère de l'Eucharistie comme celui de la Divine Trinité n'est pas possible sans mystique. Il faut donc, sans fausse honte, comprendre qu'il n'y a pas de foi et qu'il n'y a pas de vie en Église et qu'il n'y a pas de chemin personnel sans ce regard mystique. Et puis, il y a la pauvreté. Nous avons vécu 2000 ans d'Église triomphante. Il est temps, dans cette mutation importante que le monde est en train de vivre, de se préparer à une Église qui ne soit plus l'Église au pouvoir, qu'elle soit pauvre en pouvoir, mais riche en amour et riche en témoignage. Et puis, il y aura à prendre conscience que la majorité de l'humanité vit dans une situation de pauvreté matérielle et qui est une interpellation à laquelle les chrétiens ne sauraient rester indifférents. C'est une interpellation majeure qui nous interpelle à pratiquer nous-mêmes, si ce n'est une pauvreté matérielle, en tout cas d'abord une pauvreté en esprit et puis une solidarité active avec nos frères. Et puis troisième dimension de l'Église œcuménique, nous voyons combien le Seigneur, celui qui invite au repas, dépasse toutes les clôtures, qu'elles soient nationales, qu'elle soit raciale, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit géographique. Telle est la dimension de l'amour. À lui, honneur, gloire et adoration dans les siècles des siècles.
Amen.